Bonjour. Voilà, je vous présente la deuxième partie du récit témoignage dans le cadre de devoirs de mémoire concernant la traite négrière. La dernière fois, je vous parlais de Charles Ball, dont j'ai lu quelques extraits. Et ce témoignage est assez émouvant. Par contre, il décrit également dans son long livre, donc, concernant son histoire, il décrit des choses qui concernent l'esclavage vécu. Voici d'ailleurs comment il décrit la punition du fouet dans son récit. Le fouet utilisé par les commandeurs dans les plantations de coton est différent de tous ceux que j'ai vus. Le manche mesure une vingtaine de pouces et est doté d'une extrémité renflée et lourde. Autour de celle-ci est souvent fixé un quart ou la moitié d'une livre de plomb, enveloppé dans du boyau de chat, et il est solidement attaché afin de résister aux coups les plus violents. La lanière, qui mesure environ 10 pieds, ce qui reviendra à peu près à 32 cm, est faite de petites bandes de peau de daim tannée pour être sèches et dures, et elles sont étroitement tissées. Une autre punition décrite par Charles Bold est la pompe, qui consistait à faire tenir les esclaves nus sous un puissant jet d'eau. Quand l'eau commence à frapper la tête et les bras, on ne ressent aucune douleur. Mais très vite, on a l'impression de recevoir des coups violents, infligés avec de grosses baguettes ayant le diamètre d'un doigt d'homme. Cette sensation de douleur s'intensifie jusqu'à ce qu'on ait l'impression que le crâne et les omoplates sont réduits en morceaux. Enfin, on perd toutes ses facultés, on respire de plus en plus difficilement, la vision se trouble et on perd connaissance. Ce châtiment, dit-il, est en réalité un meurtre temporaire. Les conditions de la servitude étaient si dures que certains esclaves s'enfuirent définitivement. Les fugitifs étaient le plus souvent de jeunes hommes célibataires. Mais dans les extraits, on voit que, disons, que d'autres cas peuvent exister aussi. La plupart des fugitifs fouillaient seuls, donc, ou par deux, car ils avaient plus de chances d'échapper à leurs poursuivants de cette façon qu'en groupe. Après la Révolution américaine, les États du Nord abolirent l'esclavage. Des milliers d'esclaves du Sud tentèrent alors de gagner le Nord. Certains s'embarquaient, comme passagers clandestins, sur des bateaux à destination du Nord. D'autres gagnaient la frontière en marchant la nuit et en se cachant dans les forêts et les marais pendant la journée. Le gouvernement américain adopta deux lois pour tenter d'arrêter ce flot de fugitifs. Le Fugitive Slave Law, dont j'ai déjà parlé pour Harriet Jacobs, interdit d'abriter des esclaves en fuite. Et l'autre, une loi fédérale de 1850, autorisa les propriétaires d'esclaves du Sud à poursuivre les fugitifs jusque dans le Nord. Charles Ball venait du Nord, mais fut emmené dans le sud pour travailler dans des plantations de coton. Il s'enfuit une première fois en 1810 pour rejoindre sa femme et ses enfants qui étaient en Virginie. Après la mort de sa femme, 6 ans plus tard, il se remaria et eut 4 autres enfants. Mais Ball fut capturé et reconduit dans une plantation de coton en 1830. Il s'enfuit de nouveau vers le nord et découvrit, hélas, que sa femme et ses enfants avaient été vendus dans le sud. Il ne les revit jamais. Entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, un grand nombre d'esclaves en fuite, je vais répéter ça, un grand nombre d'esclaves en fuite, empruntèrent un réseau d'itinéraires tracés par une organisation secrète d'esclaves affranchis et de blancs, que l'on nomme « the Underground Railroad », le chemin de fer clandestin. Ce réseau permettait aux esclaves en fuite de gagner les États du Nord, puis le Canada. Ils étaient guidés par des bénévoles qui savaient où s'abriter et où se procurer de la nourriture. La plus célèbre de ces bénévoles courageux fut Harriet Tubman, une ancienne esclave qui avait fui le Sud. Elle organisa 19 voyages vers le Nord et libéra plus de 300 esclaves. Elle leur disait « Vous serez libres ou vous mourrez ». À propos de ce chemin de fer clandestin, je vais quand même vous montrer ceci, qui est le livre écrit par Colson Whitehead, donc sur ce thème. C'est une fiction, mais qui se base d'ailleurs, entre autres, sur les récits de Harriet, Jacobs et également Frédéric, dont j'ai parlé au début du... Frédéric Douglas, dont j'ai parlé au début, dans la première partie. Les tentatives de fuite sont très sévèrement punies. Les chiens utilisés pour retrouver les fugitifs sont des limiers, mais d'une race bien plus sauvage que ceux qu'on trouve dans les États du Nord, écrira Solomon Northup. Ils attaquent les Noirs sur ordre de leur maître et s'accrochent à eux comme les bulldogs aux quadrupèdes. On entend souvent leurs aboiements retentir dans les marais. On se demande alors quand un fugitif va être rattrapé. Je ne connais aucun esclave qui ait réussi à s'échapper vivant de Bayou Boeuf. Moses Roper, né en Caroline du Nord, énumère dans un ouvrage publié en 1837 les sévices qui lui ont été infligés après une tentative d'évasion. Coups de fouet, pendaison par les mains, goudron enflammé sur la tête, arrachage des ongles des pieds, et j'en passe. On comprend pourquoi Harriet Tubman disait aux fugitifs qu'elle aidait « Vous serez libre ou vous mourrez ». Il faut mentionner le cas de Solomon Northup, dont la voix est plutôt singulière. En effet, il est né libre en 1808 dans l'État de New York, fils d'un esclave affranchi par la famille Northup de Rhode Island. Il reçut une bonne éducation et il excellait au violon. Marié à Anne Hampton en 1829, il eut 3 enfants. En 1841, Solomon Northup fut kidnappé à l'occasion d'un voyage à Washington, laissant sa famille et ses amis sans aucune nouvelle. Mis en esclavage dans le Sud dans des conditions effroyables, revendu 4 fois sous un faux nom, il réussit à survivre et fut retrouvé dans une plantation de coton de Louisiane le 4 janvier 1853. Grâce à des années d'efforts, 12 ans exactement, pour arriver à contacter ses amis en trompant la surveillance de ses maîtres. Northup, ayant retrouvé sa famille, publia l'histoire de sa captivité l'année même de sa libération, en 1853, sous le titre « 12 Years a Slave », dont on a fait d'ailleurs un film. Il ne parvint jamais à obtenir gain de cause devant la justice américaine, ni à faire condamner ceux qu'il avait kidnappés. Devenu charpentier, multipliant les conférences, il est mort en 1857, 8 ans avant l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, à laquelle son ouvrage a très probablement contribué. Avec le livre « Barracoon », je terminerai l'évocation de ces témoignages. Il y en a bien d'autres, mais ils sont tous douloureux et tous émouvants. Zora Neale Hurston a entendu, puis écrit, le récit de l'ancien esclave Olwal Kosola, en réalité Cujo Lewis. Je vous parle de ce livre. Barracoon, rend compte de la violence utilisée pour transformer les esclaves en biens à vendre. Olual Kosola raconte son histoire, parlant de ses racines, de son voyage et comment il a été enlevé de son royaume ouest-africain de Takol en 1860. L'ancien esclave faisait partie de ceux qui ont été capturés par le royaume esclavagiste de Dahomey et transportés en Alabama sur des navires en bois. Pour lui, c'était le navire La Clotilde. Pendant des semaines, la jeune écrivaine et l'ancien esclave mangeaient des pêches et des pastèques et parlaient des souvenirs de Cudjoe Lewis. Depuis son enfance en Afrique, des horreurs durant sa capture et de sa détention dans un barracoon pour enfin être choisi par des esclavagistes américains. Puis la mémoire du vieil homme se souvient des 100 autres Africains tassés comme lui à bord de la Clotilde et aussi des années passées en esclavage jusqu'à la fin de la guerre civile. Malgré l'existence de la loi de 1807 interdisant l'importation d'esclaves, les marchands d'esclaves ont longtemps continué la vente illégale d'hommes noirs, 50 ans après l'interdiction de la traite des esclaves aux États-Unis. Cudjoe Lewis était alors la seule personne en vie qui pouvait témoigner de cette période de l'histoire des États-Unis. Je peux rajouter à ceci que pendant 50 ans, 250 000 esclaves auraient été débarqués illégalement avant la guerre de sécession. Petite remarque aussi, le prix d'achat des esclaves, très bas en Afrique, augmente dès leur arrivée aux États-Unis. Un esclave coûte $500 en 1805, 2 500 $ en 1860. Aux Antilles, les esclaves achetés $10 en Afrique sont ensuite revendus $625 en 1847. Olual Kosola est parmi les rares esclaves qui, après la liberté, a acheté la terre de Meyer et fondé Africatown, une petite ville dans l'Alabama avec d'autres anciens esclaves sortis du même navire négrier. Barracoon décrit les blessures indescriptibles vécues par les esclaves noirs. Cudjoe Lewis, le dernier esclave des États-Unis, rêvait désespérément qu'il ne serait pas oublié et quand Zora Neale Hurston lui a promis qu'elle écrirait son histoire, le vieil homme lui a répondu ceci. « Thanks, Jesus. » Quelqu'un vient pour parler de Cudjoe. On saura qui je suis. Quand je ne serai plus là, si un jour quelqu'un prononce mon nom, quelqu'un d'autre dira « Ouais, je connais Kosola ». Il y a près d'un siècle que Zora Neale Hurston d'Eatonville et Kosola d'Africatown se rencontraient et discutait d'un passé douloureux, celui des Africains, vendus comme de simples objets sur les côtes sud-américaines. Je reprendrai les mots pour terminer, les mots d'Edgar Morin, sociologue et philosophe. Le travail de mémoire doit laisser refluer vers nous la hantise des barbaries. Asservissement, traite des Noirs, colonisation, racisme et totalitarisme. À la conscience de la barbarie doit s'intégrer la conscience que l'Europe produit par l'humanisme, par l'universalisme, par la montée progressive d'une conscience planétaire, les antidotes à sa propre barbarie. Voilà. J'ai terminé cette lecture. Je vous remercie de votre écoute.